Bonjour et bienvenue à la saison 3 du balado Écoutez votre cœur, où nous continuerons d'explorer la prise en charge clinique des patients à risque élevé qui sont atteints de maladies cardiovasculaires établies. Je suis Dr. Lior Bibas, cardiologue intensiviste et votre animateur pour ce balado. Pour cet épisode intitulé « Des données probantes à l'action, perspectives internationales en matière de prévention secondaire », je suis accompagné du Dr. Michael Lévy, cardiologue et hémodynamicien. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui.
Merci, Lior, de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir de faire ce balado avec toi.
Ben, merci de te joindre. Alors, on a 15-20 minutes aujourd'hui pour un petit peu aborder quelques sujets, notamment sur la prévention secondaire. Docteur Lévy, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer à nos auditeurs aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut dire par la prévention secondaire de maladies cardiovasculaires?
Donc, la prévention secondaire, c'est quand les patients font un événement cardiovasculaire, que ce soit un infarctus ou un événement ischémique aigu au niveau du membre périphérique ou même un AVC, ben, on essaie de prévenir un deuxième événement chez ces patients-là. Donc, ça, c'est vraiment la définition de la prévention secondaire, contrairement à la prévention primaire qui vise à vraiment prévenir un premier événement.
Alors, en pratique, en quoi ça ressemble exactement la prévention secondaire? On va dire, tu as un patient qui vient te voir, il a fait son infarctus l'année dernière, puis il veut savoir comment pouvoir prévenir un autre infarctus ou un AVC ou un autre problème vasculaire. Ça commence par quoi, la prévention secondaire?
Donc, tout d'abord, on vise vraiment l'observance médicamenteuse. Donc, chez ces patients-là, ils auront une série de médicaments à prendre, entre autres l'aspirine, les statines. Ensuite, des statines, on peut escalader le traitement hypolipémiant avec les étimibes. Et on vise vraiment des niveaux de LDL et non-HDL, et puis là, maintenant, voir l'APOB. Donc, dépendamment de quelles recommandations il s'agit, on vise généralement un LDL en bas de 1,8 mmol par litre et un non-HDL en bas de 2,4 mmol par litre. Pour certains patients et puis certains même cliniciens, on va même aller viser l'APOB à moins de 0,7 mmol par litre. Et je pense qu'il faudrait mettre l'emphase pour essayer d'atteindre ces cibles-là pour limiter les deuxièmes événements cardiovasculaires chez ces patients-là. Mis à part le traitement pharmacologique, on vise aussi sur le traitement non pharmacologique chez ces patients-là. Donc, vraiment, ces patients fument, on va mettre l'emphase sur l'arrêt tabagique. On va leur demander aussi de faire de l'activité physique. On va les inscrire dans des programmes de réhabilitation cardiovasculaire, dans des programmes de maladies chroniques dans les hôpitaux. Donc, vraiment, c'est une prise en charge globale pour ces patients-là.
Merci, Michael. Alors, tu parlais de médicaments qu'on peut donner pour baisser le cholestérol. Est-ce que tu peux peut-être me dire les grandes classes de médicaments qu'on peut donner chez nos patients atteints de maladies cardiovasculaires afin de réduire leur risque de récidive ou de nouvel événement?
Donc, je pense pour le commun des mortels, c'est sûr qu'on débute avec une statine. Peu importe la statine, c'est une statine à dose maximale tolérée. Donc, ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour être très agressif, on va même débuter d'entrée de jeu les étimibes, qui est une dose fixe. Et puis ensuite, une fois que ces deux médicaments sont introduits et les patients le tolèrent, alors là, on pourra ensuite débuter soit un inhibiteur de la PCSK9 chez certains patients. D'autres patients vont avoir aussi le dérivé de l'EPA, le Vascepa, pour essayer de limiter les récidives d'événements cardiovasculaires. On sait que ces médicaments-là, ils ont été introduits pour les hypertriglycéridémies, mais généralement, ils ont des effets pléiotropiques, surtout au niveau vasculaire, pour essayer de réduire la plaque. Et ensuite, il y a toute la nouvelle classe de médicaments, le groupe de médicaments pour inhiber l'ARN messager petit, qui est l'inclisiran, et après ça, il y a les inhibiteurs de la production de LPA. Le pélacarsène, en fait, est encore à l'étude pour avoir des données vraiment pour limiter les événements cardiovasculaires. On attend encore le résultat de ces études pour 2025-2026.
Ben, écoute, on dirait que ça en fait quand même beaucoup de médicaments. Moi, je me demande, on va dire, c'est pour simplifier ça. Alors, on a un patient qui fait un infarctus, on veut prévenir un autre infarctus, on donne des statines, j'imagine, d'emblée à haute dose, c'est ça?
D'emblée à haute dose. Généralement, après un infarctus, moi, je prescris d'emblée l'atorvastatin 80 ou le rosuvastatin 40 d'emblée. Et puis même, des fois, si ce patient-là était déjà sous statine et il est venu avec un événement, ben, je débute d'emblée les étimides 10 mg. jusqu'à ce que ce patient soit évalué par soit une clinique de lipides ou son cardiologue traitant à 4 à 6 semaines après l'événement avec un bilan lipidique. Si le LDL en HDL approbé n'est pas cible, on escalade la thérapeutique avec un inhibiteur de la PCSK9 d'entrée de jeu chez ces patients-là. Donc, on débute, ils sont rendus à une trithérapie à 6 voire 8 semaines de temps que cette molécule-là soit approuvée.
Et on s'attend à quoi? Au juste, les statines à haute dose, on dit souvent qu'ils soient à haute dose. Est-ce qu'on connaît un pourcentage de combien, comme tu as dit, rosuvastatine 40 peut baisser, entre guillemets, le mauvais cholestérol LDL? À combien on peut estimer ça chez un patient?
Généralement, c'est 50% environ.
50%. Ouais, et les itimibes, est-ce qu'on a une idée combien ça peut faire environ?
Je pense que ça rentre dans la même catégorie de l'acide bempédoïque, qui est malheureusement pas approuvé ici. Aux États-Unis, il l'est. De l'ordre de 15 à 20, voire dépendamment des patients, 25%. Donc, les itimibes, c'est 20 à 25% de diminution.
OK. Alors, si je comprends bien, première ligne, ben, on s'entend, c'est toutes les interventions non pharmacologiques. Il ne faut pas les oublier non plus. Elles sont super importantes. La cessation tabagique, l'exercice, la diète, la gestion des autres facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, le diabète et tout ça. Mais quant aux statines, c'est d'emblée une statine à haute dose. Et maintenant, je voulais savoir, Michael, toi, tu prescris, si je comprends bien, les étimibes de façon assez agressive chez tes patients. Est-ce que tous les patients devraient recevoir dès leur premier infarctus de l'étimibes?
Donc, quand le patient se présente en syndrome coronarien aigu, après l'intervention coronarienne, je prescris les étimibes si le patient était déjà sous statine, en plus de maximiser la statine à dose maximale. Maintenant, si le patient n'a pas de statine, alors je prescris une statine à dose maximale. Ce patient devrait être vu en externe de 4 à 6 semaines après son syndrome coronarien aigu. Et ensuite, s'il n'atteint pas les cibles, ben on rajoute les étimibes par la suite. Et puis, s'il est sous statine et étimibes et puis il n'atteint toujours pas les cibles, on doit faire une demande à la RAMQ pour débuter un inhibiteur de la PCSK9. Ça, c'est mon approche. Et ça devrait approcher un petit peu toute clinique si on veut rester vraiment by the book selon les guidelines. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a les ressources pour voir les patients 4 à 6 semaines après leur syndrome coronarien aigu. Malheureusement, certains patients sont vus à 3 à 4 mois, d'autres tombent de chaise et sont suivis par leur médecin de famille. Les médecins de famille ne connaissent pas vraiment les cibles. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut renchérir par rapport aux cibles de cholestérol.
Parlons des cibles. Alors, justement, ça aborde la prochaine section de ce balado que je voulais aborder avec toi. Alors, bon, les cibles, c'est sûr qu'on le sait, il y a différentes associations. Ici, au Canada, on respecte souvent la Société canadienne de cardiologie, mais on sait juste au sud, on a le ACC, le American Heart. En Europe, on a la Société européenne de cardiologie. Puis chacune a ses cibles de discipline qu'elle vise. Des fois, aux États-Unis, en plus, ils ont leur propre unité qui rend le tout un petit peu plus mêlant pour le clinicien qui veut juste faire du bien auprès de son patient. Maintenant, ici, commençons par le Canada. Au Canada, c'est quoi les cibles de prévention secondaire qu'on vise chez nos patients? C'est-à-dire, une fois qu'il a fait son infarctus, comme tu dis, on veut le voir 4 à 6 semaines plus tard avec un bilan lipidique. C'est quoi les cibles qui nous disent, ben, on fait une bonne job ou... Ben non, il faut ajouter quelque chose comme par exemple un inhibiteur des PCSK9.
Donc, pour les recommandations canadiennes, le LDL visé est de moins de 1,8 mmol par litre. Prévention secondaire. Juste pour faire une parenthèse, je ne veux pas mettre l'emphase là-dessus, mais en prévention primaire, ces patients-là, c'est un LDL moins de 2 mmol par litre. Donc, il faut faire la distinction. Maintenant, pour renchérir en plus du LDL, parce qu'on sait que le LDL est un bon marqueur, mais on sait d'autant plus que maintenant, on vise des cibles de non-HDL en bas de 2,4 aussi, et de l'ApoB en bas de 0,7. Donc, il ne faut pas nécessairement atteindre toutes ces trois cibles, mais idéalement, si on est capable d'atteindre toutes ces trois cibles, ben, c'est encore mieux pour le patient. Ça, c'est pour les recommandations canadiennes. J'aimerais juste parler aussi de l'ESC qui vient juste de publier leurs recommandations il y a à peu près un mois, et puis eux, ils arrivent à distinguer les patients soit au risque, très haut risque et risque extrême. Et puis là, ces patients-là, donc au risque, c'est la même chose que nous, les patients qui font un syndrome coronarien sont à haut risque de refaire un deuxième, donc ils sont en bas de 1,8 millimoles par litre. Les patients qui sont à très haut risque, on va viser en bas de 1,4 millimoles par litre. Donc nous, ici au Canada, nous n'avons pas ces sous-recommandations-là. Et puis, les patients qui sont dits à risque extrême, ce sont des patients qui sont polyvasculaires, qui ont de la maladie périphérique, de la maladie vasculaire carotidienne, en plus d'avoir fait des événements coronariens. Alors là, la recommandation est plutôt de classe 2B, et puis on vise un LDL en bas de 1 millimol par litre. Donc, c'est sûr que pour atteindre 1 millimol par litre, il faut vraiment avoir plusieurs médicaments à bord. Mais encore là, ça, c'est vraiment des patients qui sont à très, très, très haut risque.
Alors, c'est drôle parce que ici au Canada, puis même aux États-Unis, en fait, c'est le seuil de 1,8 du LDL qui est reconnu. Puis en fait, comme il y a aussi des seuils dans le non-HDL et dans la POB, mais c'est drôle parce que un patient qu'on voit au bureau ici, on vise un LDL différent qu'en Europe. On comprend que chacun a ses propres guidelines, mais comment est-ce que tu consolides le fait que un patient, tu sais, c'est pas géographique, on s'entend le cholestérol. Comment tu consolides le fait qu'en Europe, c'est 1,4, ici, 1,8? Est-ce que ça change ta pratique un peu quand tu vois un patient?
Pas vraiment. Je pense que certaines lignes directrices sont plus agressives que d'autres. Je pense que peut-être la société canadienne et américaine vont publier des lignes directrices qui sont plus récentes que 2019-2020. Et puis, on verra peut-être qu'ils sont devenus encore plus agressifs et on va peut-être voir la cible être réduite de plus en plus. Sachez que depuis les 10 dernières années, on cible encore de plus en plus bas le LDL et non-HDL éventuellement parce que nous avons maintenant les molécules pour. Donc, je pense qu'on s'en va un peu dans cette direction-là. Mais en attendant, je pense que c'est un modèle qui dit « the lower, the better ». Donc, le plus bas est le niveau de cholestérol, le mieux nous nous portons chez ces patients-là. Je pense que c'est ça un petit peu le message.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Alors, moi, la façon que je l'interprète, c'est comme ça, c'est que, en fait, on sait que en prévention secondaire, surtout l'effet des statines, et que plus les LDL sont bas, moins il y a d'événements cardiovasculaires. Mais maintenant, je me demandais, c'est juste comme ça, on dirait que tu as un patient qui tolère bien ses médicaments, il est à un an post-infarctus, il est sous dose max de rosuvastatine, et puis ses LDL sont à 1,5, ou je te disais même, disons 1,3 ou 1,2. Ils sont très bas. Est-ce que tu changes la dose? Est-ce que tu slacks un petit peu sur les statines? Ou est-ce que si tu tolères bien, tu gardes la même dose?
Donc moi, je garde la dose. Et je pense qu'on a beaucoup de consultations par des médecins de première ligne, soit des médecins de famille ou des IPS, qui nous demandent est-ce que c'est nécessaire de garder des statines à haute dose? Et moi, je pense que oui, il faut les garder à haute dose. Les patients le tolèrent. On le garde à haute dose, on garde le LDL aussi bas qu'on peut tant que le patient tolère son médicament.
OK. Ben, je suis d'accord avec cette pratique aussi. Puis je me demandais, toi comme clinicien, c'est quoi au juste l'impasse, c'est quoi les difficultés que tu as observées pour l'implémentation de ces guidelines? Parce que des fois, on dirait que c'est simple. On donne un médicament et puis on fait un bilan. Puis si c'est trop haut, ben on a tellement d'options aujourd'hui pour majorer le traitement. Comme tu as dit, on descend notre échelle de statine, ezetimibe, ensuite les inhibiteurs de PCSK9. C'est quoi les enjeux que tu as à l'implémentation de cet algorithme puis de ce plan de match chez tes patients?
Donc, Salieur, c'est une excellente question. En fait, la réponse courte, c'est les ressources, tout simplement. Les ressources ici au Québec, c'est un peu difficile. Bon, les statines sont remboursées, les étimibes, il n'y a pas d'enjeu. Mais une fois qu'on voit des médicaments qui sont de plus en plus dispendieux, comme les inhibiteurs de la PCSK9, et ensuite, si on veut passer au petit ARN interférent, soit l'inclisiran, qui est maintenant approuvé en tant que médicament d'exception, ben, alors là, il faut faire une demande, démontrer que le patient tolère les médicaments et qu'il n'est pas à cible, et ensuite attendre la réponse. Et puis souvent, nous avons des refus. Donc, c'est vraiment une question de ressources pour ces patients. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et d'autant plus, je pense que les lignes directrices, ils disent « Ah ben, il faut voir le patient à 4 semaines, et puis ensuite, on fait un autre bilan à 4 semaines. » Donc, l'intervalle de temps, malheureusement, est difficilement respecté en vraie vie parce que nous voyons tout genre de patients. Et puis, c'est difficile vraiment d'être rigoureux sur le temps entre chaque rendez-vous et encore aussi le bilan lipidique pour voir si ces patients sont à cible ou pas. Donc, c'est vraiment les ressources en termes de temps, les ressources monétaires aussi. Donc, c'est ça, en fait, qui limite la prescription et, de ces médicaments-là chez ces patients.
Ouais, et alors tu as identifié des enjeux de système. Est-ce qu'il y a des enjeux liés aux patients?
Alors, généralement, quand on parle de médicaments injectables, alors les patients sont de plus en plus frileux avec ça. C'est sûr qu'on leur explique, c'est le mieux pour eux. On a une diminution des effets cardiovasculaires avec ces médicaments-là. Ils ont été étudiés de fond en comble avec des dizaines de milliers de patients. Mais malgré ça, certains patients sont réticents à la prise d'injection, soit aux 2 semaines, aux 4 semaines. Certains agents, comme l'inquisiran, peut-être injectés aux 6 mois. Bon, ça, ça les réchauffe un peu plus, mais quand même, se faire injecter, et là, ils nous disent qu'est-ce qu'il y a dans l'injection, que c'est quelque chose qui va modifier notre ADN, donc ils sont un petit peu réticents à ça. Donc, souvent, nous repousse quant à l'injection des médicaments, mais bon, éventuellement, ces patients refont un autre syndrome coronarien, et puis là, ils réalisent qu'il faut escalader la thérapeutique. Alors, souvent, ils cèdent, et puis finalement, on est capable de le prescrire. Donc, ça, c'est un petit peu les enjeux que moi, j'ai vécu avec certains patients.
D'accord. Alors, juste pour boucler la boucle un petit peu, si on résume, pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, quels sont les principaux points à retenir de notre discussion d'aujourd'hui?
Donc, les principaux points, je pense, c'est de connaître les cibles. Je sais que ce sont des chiffres, mais on peut les écrire un petit peu au bas de notre consultation pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on vise chez des patients. Bon, prévention primaire, on n'en discute pas aujourd'hui, là, mais on en a discuté très brièvement par rapport aux chiffres. Et puis, la prévention secondaire chez ces patients-là. Et puis, la dose maximale de statine tolérée et ne pas la réduire même après 2, 3, 4 ans. Si le patient tolère la médication, ben, on continue dans cet axe-là chez ces patients. Et puis, outre mesure, s'ils ne savent plus quoi faire, eh bien, ils sont un petit peu dans le doute, malgré que le syndrome coronarien ait eu lieu il y a plus de 10 ans, ben, ils peuvent demander toujours une évaluation cardiovasculaire et savoir qu'on va continuer la statine à dose maximale. Donc, et l'autre chose, peut-être que je le dirai en anglais parce que ça passe mieux, c'est « the lower, the better ». Donc, en fait, en français, ça veut dire la dose maximale de statine avec un LDL, le plus bas qu'il est, le mieux nous portons.
OK, ben merci pour ça. Je pense que c'est clair. Alors, merci d'avoir écouté le dernier épisode du balado « Écoutez votre cœur ». Nous espérons vraiment que cette discussion approfondie des données probantes à l'action perspective internationale en matière de prévention secondaire vous a plu. Si cette discussion a été utile pour votre pratique clinique, vraiment, n'hésitez pas à en faire part à vos collègues en cliquant sur le bouton « Partager ». Et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur Apple ou Spotify pour être informé de la sortie des prochains épisodes.